Donc nous sommes à la Japan Expo et cette fois c'est en compagnie de Fabien Dalmasso et de Geronimo Sejudo. Bonjour.
Bonjour.
Salut tout le monde. Moi je m'appelle Geronimo, Gero, c'est plus rapide. Je suis le dessinateur sur l'île Berry depuis 2 ans, mais même si c'est sorti que cette année en 2019. J'ai fait l'option art plastique au lycée. Je sais pas si c'est utile de le préciser. Juste après j'ai fait une mise à niveau en art appliqué qui m'a appris 2-3 trucs et un BTS design produit qui m'a servi à rien. Et après j'ai enchaîné les petits boulots quoi, avant de me lancer grâce à Fabien dans le bouquin quoi.
Du coup moi je suis Fabien, donc je suis scénariste sur la série L'île Berry et je suis auteur de BD depuis 2007, donc plus sur le format BD jusqu'à présent, donc sur des séries comme WoW, la parodie de World of Warcraft que j'ai scénarisé à une époque, ou Roll of the Acid, l'adaptation de la saga MP3 que je dessine encore aujourd'hui. Voilà, côté parcours, moi j'ai un bac S, une mise à niveau mais en métier d'art que j'ai pas fini parce que ça m'a saoulé, mais qui m'a permis d'acheter un Mac et de rester sur Mac depuis. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, c'est tout ce que j'en ressors en fin de compte de cette année-là. Et Nancy, quand même, qui m'a permis de mettre les pieds à Paris à l'époque et de découvrir les premières conventions et donc de commencer à faire le réseau qui me sert encore aujourd'hui. Donc c'était pas totalement inutile. Et après, j'ai pas de formation en fait dans le dessin puisque j'ai une licence de biologie, donc ça n'a rien à voir. Voilà, mais par contre, bon, je suis quand même malgré tout dessinateur et scénariste par un heureux concours de circonstances et de travail personnel, on va dire.
Et du coup, comment est-ce que ce projet de l'île Berry est arrivé ?
C'est un projet qui est né dans mon petit cerveau malade il y a peut-être 3 ans de ça, 3-4 ans même, maintenant. Ça fait longtemps qu'on est dessus. Sur une simple petite histoire, en fait, à la base, un exercice de style, un manga que je voulais dessiner moi-même. Et puis, d'où le choix d'un début de narration assez classique et inspiré. Et puis en fait, c'est resté un peu dans un coin parce que je n'arrivais pas à le dessiner comme je voulais. Et puis un an plus tard, j'ai découvert par hasard le dessin de Géraud. Et du coup, on a pris contact. Et j'avais cette histoire un peu légère dans les cartons que j'avais un petit peu retravaillé entre temps. Et je lui ai soumis le pitch de base et puis quelques personnages. Et puis voilà, ça lui. Il va vous en parler juste après. Puis le truc s'est monté progressivement en fait en discussion et en échange autour de cette histoire qui a progressivement pris son identité en fait à partir de l'exercice d'origine sur lequel j'avais travaillé quoi.
Moi j'ai vu une opportunité, j'ai plongé dedans et voilà, avec toute la naïveté possible, mais c'est une bonne opportunité. Non, c'était super cool. Voilà comment c'est né. C'est une bonne collaboration du coup, c'est pour ça que le projet a continué. Si ça avait été trop toxique ou quoi, ou j'aurais arrêté dès le début, je pense.
J'ai fait hyper attention à pas l'intoxiquer, justement. Ouais. Il a été très clair au début sur ce qu'il attendait d'une relation de scénariste et de dessinateur, en fait. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai proposé des choses, on a discuté. On discute toujours beaucoup maintenant, d'ailleurs. C'est resté un peu le maître mot de la collaboration. Voilà, j'impose pas de choses. Je suis à l'écoute de ce qu'il me propose, même au niveau du scénario et des retours qu'il peut m'en faire quand j'écris. Et j'essaie d'être le plus à l'écoute possible sur ce qu'il a envie d'exprimer lui en dessin et de pas imposer une vision que j'aurais moi absolument. Enfin voilà, c'est un projet qui fonctionne vraiment sur une dynamique de duo et à ce niveau-là, je trouve ça bien quoi.
Voilà, donc du coup, c'est parfaitement ouvert. Si par exemple Geronimo a des idées de scénario, vous pouvez réussir à vous mettre d'accord là-dessus.
Des idées de scénario, c'est pas vraiment des idées de scénario, mais si j'ai une petite idée sur un personnage, est-ce qu'il peut faire telle chose ou est-ce qu'il peut avoir telle. Voilà, est-ce qu'il peut avoir tel choix mais vraiment, j'influe pas sur le scénario. Le scénario, je laisse Fabien gérer. Il gère déjà très bien. Et, tout ce qui est trame principale, du coup, j'attaque pas là-dessus. C'est vraiment des petits trucs, des petits détails à droite, à gauche. Parce que ce personnage, il peut perdre un bras ou perdre une oreille. Un truc dans le genre, quoi.
Ou avoir telle arme, ou avoir tel truc, souvent sur les armes aussi. Alors c'est vrai que du coup quand j'ai pas prévu de leur mettre, que je sais pas quoi faire avec, je dis oui on va lui en mettre, mais je sais pas si elles vont beaucoup nous servir. Mais si au fin de compte, la dernière suggestion que t'avais fait pour un des personnages, finalement les armes ont servi, bon peut-être pas autant que t'aurais espéré, je sais pas, ouais, on l'a pas fini de s'en servir, remarque. Mais voilà, des fois, par exemple, dès que je finis un chapitre, en fait je lui envoie, c'est mon premier lecteur, Giro, et du coup, son retour est intéressant parce que il y a des poncifs ou des clichés que moi étant plus âgé que lui, comme on a 10 ans d'écart, sur mes propres références, tu es jeune. Voilà, moi j'ai des références qui sont pas tout à fait les mêmes que les siennes, et du coup on peut s'assurer de pas tomber dans un cliché que l'un ou l'autre aurait loupé. Enfin bon, on utilise des poncifs certes, mais on essaie de pas faire de clichés par contre, autant que possible, ou alors ils sont voulus, et assumer autant que possible. Mais voilà, en tout cas, non, ça permet voilà, d'avoir une écriture qui n'est pas que de mon propre point de vue unique, en fait, et je pense que ça apporte beaucoup. Hein, voilà. Il n'y a jamais d'impose pas non plus, je peux aussi refuser des choses, si, voilà, heureusement, et inversement. Hein, mais voilà, on essaie d'avoir une espèce d'équilibre pour être sûr qu'il n'y ait pas de frustration d'une part d'un côté ou de l'autre, et que les idées soient ouvertes à la discussion. Quoi.
Voilà. Quelles sont vos influences à tous les deux ?
Bon, sur le scénario, l'influence Dragon Ball est claire et évidente chez moi, puisque... voilà. Giro en a d'autres, je tiens à dire que tout ce qui est Dragon Ball sur l'île Berry, c'est ma faute, enfin c'est grâce à moi, c'est selon. Voilà, en tout cas, parce que le pauvre il sature. Voilà, voilà, parce que c'est un manga que je tiens en très haute estime, c'est aussi par ça que j'ai attaqué, vu que enfin, c'est un peu tout ce qu'on avait au démarrage de toute façon. Donc voilà, et puis c'est une œuvre qui a cette simplicité et ce côté droit au but en fait qui fait sa qualité et que j'essaie de moi de conserver aussi dans l'histoire, avec la touche d'humour, ce qu'il faut de baston et des pique-nesses quand c'est nécessaire, mais en gardant un côté léger, surtout au démarrage. Donc on a essayé de garder un peu cet esprit en fait, vraiment dès le début. Plus un début de pitch qui était un peu équivalent, mais c'est vrai que ça vient des toutes premières heures du projet, c'est resté. Mais voilà, donc moi c'était quand même mon influence première, pas pour la suite au niveau du scénario du fond, mais par contre dans la façon de travailler dans le ton à adopter en fait. Voilà, mon influence principale elle est là en tout cas en termes d'histoire. Il y a d'autres choses hein, évidemment, j'ai pas lu que ça dans ma vie. Hein. Voilà, j'ai mes propres idées, heureusement. Mais voilà, c'était vraiment cette idée du ton voilà, qui était assez marquante au début. Quoi. Retrouver cette simplicité du début. Quoi. Voilà.
Alors j'ai quand même une très grande estime pour Toriyama et son œuvre, hein. Mais c'est pas mon influence première, hein. je fais une overdose totale. Mais non, mon influence première c'est Oui Oui. Non, pas du tout. C'est un peu tout. Non, c'est vraiment un peu tout ce que je bouffe en termes de pop culture, soit les Marvel, les BD, un peu graphique, style Agito Cosmos, tout ça. Les jeux de combat aussi, beaucoup de jeux de combat, je kiffe bien ça. Et le chara-design du studio qui s'occupe de Guilty Gear, tout ça, etc. Enfin, non, c'est vraiment un peu tout. C'est tout ce qui gravite un peu autour dans la pop culture. Je bouffe ça et après c'est feeling, impro, total. One Piece. Bien sûr, One Piece. Le best, le boss, bien entendu. Voilà.
Et du coup, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce manga pour ceux qui ne connaissent pas ?
Oui, alors donc l'île Berry est un shonen d'aventure et d'humour avec une petite, une bonne grosse pointe de baston quand même dedans, qui présente donc les aventures de Bei, qui est une jeune fille dans une douzaine d'années, qui a été élevée plus ou moins secret à la montagne, coupée du monde par son grand-père. Et un soir, alors qu'elle fait dodo, un jeune chasseur de primes débarque, défie le grand-père, un combat s'ensuit, on comprend qu'il y a des choses non digérées en arrière-plan. Et au petit matin, quand Bei se réveille, son grand-père n'est plus là, il y a quelques traces de combat à droite à gauche, mais c'est pas trop ce qui s'est passé. Et elle saute sur l'occasion, en fait, avec toute la naïveté dont elle est capable, sachant que, bah, voilà, elle connaît rien de l'extérieur, quoi. Mais son grand-père l'a quand même bien entraîné aux arts martiaux, donc elle est balèze, on sait qu'elle a des pouvoirs, des choses comme ça. Et elle part à l'aventure, en fait, direct, et oh, mon grand-père est parti, je vais aller le chercher, pump it up, c'est la super excuse, en fait, pour se barrer de la maison et aller découvrir le monde. Et forcément, le monde n'est pas forcément ce qu'elle attend qu'il soit. Donc, au début, elle aborde tout avec un côté assez naïf et assez rentre-dedans, et puis très très vite, elle va découvrir qu'il y a d'autres choses, d'autres enjeux, c'est un peu caricatural, mais il y a des gens méchants, il y a des vraies saloperies qui existent, et que peut-être quelque part, avec ce qu'elle sait faire, peut-être un rôle qu'elle peut jouer, ou en tout cas avoir une incidence sur les choses. Voilà. Et puis surtout, elle a surtout envie qu'on lui foute la paix, qu'on laisse faire sa vie, alors que très vite, des gens commencent à lui tourner un peu autour pour diverses raisons. Et ça la saoule, en fait, quoi. Donc, dis-moi, je vais aller expliquer aux gens, ils vont comprendre, les gens sont gentils, je vais leur dire. Bon, on voit comment elle leur dira après, mais voilà. En gros, c'est ça l'idée. Bon. Bei découvre le monde à sa façon, pour résumer.
Et du coup, pourquoi ce nom de Bei ?
Alors, rentrons dans les détails sans faire de spoil. En gros, il y a une légende chinoise qui sous-tend qui a servi de filigrane. Alors, elle n'est pas prise de façon littérale, mais elle sous-tend très, très, de très très loin la mythologie qu'on a mis en place. Et je vais garder le nom de ce personnage tel quel à l'origine. Et donc, le nom de Bei à l'origine est une version simplifiée de ce nom qui est un nom chinois. Et qui marche en français pour le jeu de mots, en fait, ce petit côté frais et fruité de l'héroïne, en fait. Mais qui est en fait une contraction, au final, du nom de son nom complet. On découvrira plus tard.
Et du coup, est-ce que vous avez déjà prévu à peu près sur combien de tomes ça va se dérouler, ou est-ce que vous avez déjà la fin en tête ?
Alors, de base, c'est un petit cycle en 3 tomes. Et advienne que pourra, si ça marche, il y a une suite. Sinon, les 3 tomes s'autoconcluent, le cycle s'autoconclut comme il faut, quoi. Il finit le premier arc tranquillement, quoi. On espère qu'il y aura peut-être une petite suite, histoire de raconter 2-3 trucs en plus, et puis voilà.
Si je peux compléter, ouais, du coup, c'est comme j'ai dit, on avait 3 tomes de signés, donc on a fait en sorte d'avoir un arc sur 3 qui était à peu près satisfaisant en termes de conclusion. Alors, évidemment, c'est une conclusion qui appelle une suite, c'est un absolu, mais voilà, les choses qui sont amorcées sérieusement dans ces, dans ces premiers tomes sont conclues. Avec l'idée évidemment de mettre des pistes pour d'autres choses et qu'à l'arrivée à la fin du tome 3, les gens aient une envie, c'est d'avoir une suite évidemment. Mais on n'est pas non plus à genre on s'arrête pas sur un cliffhanger de la mort, on sait pas ce qui se passe quoi. Voilà, il y a une forme de conclusion quand même, heureusement. Et dans l'absolu, voilà, après ce petit arc d'intro, il y en a au moins 2 que j'ai assez clairement en tête. Voilà, donc si on pouvait un peu plus que 3 tomes pour les développer, ce serait cool, mais bon, si on dit on vous donne 2 fois 3 tomes, on fera avec pour raconter les choses quoi. Puis si le succès est là, ma foi, allons-y. Ça dépend après, voilà, le nombre de tomes qu'on nous laisse définit comment est-ce qu'on peut plus ou moins diluer ce qu'on a à raconter. Parce que dans les 3 tomes du démarrage, il a quand même fallu un peu serrer. Et ça se ressent des fois. Voilà. On n'a que 3 tomes, donc il faut quand même que tout rentre dedans autant que possible.
Vous avez d'autres projets communs pour après ou même individuels ?
Alors, projet en commun peut-être. Si l'île Berry ne fonctionne pas et qu'on nous donne la chance de faire un autre projet en commun, pourquoi pas ? Parce que la collaboration a bien marché. Mais ouais, à côté, je bosse sur un projet perso que je bosse depuis moult temps, que j'aimerais vraiment accoucher sur papier, quoi. Et c'est vraiment le projet du cœur, quoi. Peut-être, un jour, on verra.
Moi, j'ai toujours des projets en route, de façon ou d'une autre, autant que possible, parce que si j'ai plus de projets, j'ai plus à manger, donc c'est quand même un problème. Voilà, donc dans les prochaines collabs, enfin, si Libéry décollait pas, effectivement, comme on l'espère, si Géro est OK pour collaborer sur autre chose avec moi, ce sera avec un très très grand plaisir, puisqu'il sait très bien à quel point j'apprécie son travail. Voilà, puis à titre perso, moi j'ai une BD là, de fantasy qui s'est signée chez Soleil tout fraîchement là, avec l'excellent coréen Jaewon Kim au dessin. Donc voilà, c'est une saga de fantasy, peut-être pas de dark fantasy, mais de fantasy quand même un peu plus sérieuse. Il y aura de l'humour aussi, mais ce sera un peu plus cynique, un peu plus, voilà, c'est pas pour les enfants. Donc chez Soleil, après j'ai 2-3 autres projets avec une dessinatrice italienne extrêmement talentueuse aussi, voilà, où je suis toujours au scénario. Voilà. Puis en termes de dessin, je conclue les séries actuelles Reflet d'acide que j'ai encore chez Delcourt, là, qui changera un peu de forme pour la fin de l'histoire. On passera sûrement au crowdfunding, en fait on va sortir de l'édition traditionnelle pour finir ça comme un petit peu hors des carcans. Puis voilà, puis après j'aimerais bien replacer un projet au dessin quelque part, mais en ce moment là je suis dans une phase où il faut que je progresse un peu en dessin pour rattraper tous ces jeunes petits ambitieux talentueux là, qui débarquent dans tous les sens et qui sont beaucoup trop doués à mon goût. Mais ça va tant que je travaille avec eux. Voilà, non, il faut que je mette un coup de pied aux fesses pour améliorer d'un cran, pour pouvoir à nouveau être valable au dessin actuellement, enfin de mon point de vue. Voilà.
Et du coup, j'avais aussi peut-être une question qui fâche, mais comme vous êtes un manga français, est-ce que c'est pas un peu difficile par rapport à la concurrence ?
Si, totalement. Quand on sort à côté d'un My Hero Academia, Shingeki no Kyojin, enfin des gros monstres quoi, qui pèsent. C'est dur, mais je sais pas. Je pense que le public français qui suit le manga français, il a un certain engouement assez chauvin, comme on avait dit. Il kiffe quand c'est français, enfin quand c'est bien fait surtout. Enfin, ça a beau être français, si c'est complètement rincé, ça passe pas. Mais là, alors avec l'île Berry, j'ai aucune idée de si les gens kiffent ou quoi, de ce qu'on a comme retour. Ils kiffent bien. Moi, de toute façon, si je dessine ça, c'est pour les lecteurs, hein, pour les gens, donc et aussi pour être riche, pour m'acheter ma Lamborghini s'il vous plaît. mais sinon ouais, c'est assez dur, surtout qu'à côté c'est des machines, c'est une industrie, c'est une usine quoi. Ils ont des assistants, ils ont vraiment des éditeurs derrière eux qui les poussent, leur tantôt qui est toujours là quoi. Ils remplissent leurs factures à la place, ils leur font leurs courses. Moi j'aimerais bien qu'on remplisse mes factures à ma place, mais non, c'est vrai. C'est dur, mais moi j'y pense pas vraiment, parce que je suis aussi lecteur de ces mangas-là, donc c'est cool d'être à côté, quoi. Par exemple, chez Delcourt Tonkam, on est à côté de Jojo, et Jojo, qui est une grosse partie de mes influences, c'est cool, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est dur, mais c'est cool.
je suis assez d'accord, là. C'est vrai qu'il y a le... On est quand même dans une niche entre guillemets, mais c'est vrai que le public a pas mal évolué ces dernières années, donc on sent qu'il y a une forme d'attrait et voilà, une fierté de dire tiens, nous les Français on sait aussi faire. Bon, c'est vrai que c'est très français comme réaction, c'est très chauvin comme tu disais, c'est ta gala, c'est nous queuve là quoi. Bon voilà, donc on sait qu'on est tout minuscule par rapport aux immenses stars du milieu venant du Japon, c'est normal, mais par contre voilà, on est ce petit groupe d'auteurs français maintenant qui on se connaît tous un petit peu, donc il y a et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière qui sont extrêmement talentueux et voilà, il y a je pense une petite équipe là qui débarque, on aura peut-être un jour une école du manga français, hein, comme on disait dans les grands courants du temps d'avant, quoi, et qui est prometteuse à mon avis. Donc voilà, c'est assez exaltant de faire partie de cette. On n'est pas les premiers, certes, mais on est peut-être la deuxième vague. On est très, très fiers d'être là-dedans, quoi. Donc on espère que ça suivra derrière nous.
Et du coup, est-ce que vous avez des conseils pour justement ceux qui voudraient se lancer dans le manga en étant français ?
Non, bah, se lancer, c'est assez compliqué d'avoir des infos sur le milieu, comment on devient auteur BD ou manga en France. Juste faites votre dossier, faites 5-10 pages, votre petit pitch, là, petit résumé de l'histoire, une couverture, enfin un semblant couverture en couleur. Vous envoyez ça à tous les éditeurs, vous avez un petit retour, et puis tranquille, quoi, vous profitez de la Japan Expo pour venir donner vos petits dossiers aux éditeurs, ou les tremplins comme le tremplin Kiyun qui permet de lancer certains auteurs, autrices. Voilà.
Moi, le seul conseil que j'ai, j'en ai deux en fait. Le premier, qui est celui qu'on m'a donné moi quand j'ai commencé dans la BD, mais ça marche dans toute l'édition en général, c'est de ne jamais abandonner. Parce que c'est une démarche, l'envoi de dossier, dans lequel il y aura, à moins d'être soit d'avoir le bon contact dès le démarrage, soit d'être extrêmement talentueux. Même des fois, étant extrêmement talentueux, on peut se prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms dans la tronche. On peut envoyer 10 dossiers, en avoir 9 qui seront noms, et puis on se dit, le dixième qu'on lançait sans y croire vraiment, c'est peut-être celui-là qui va finir par prendre, ou pas, on ne sait jamais malheureusement. Mais c'est pas plus facile une fois qu'on est dedans, parce que tu sais jamais si ton album il va marcher aussi en fait. Donc c'est une inconstance permanente dans ce métier. Donc voilà, il faut être persistant, et il faut quand même être conscient que c'est pour les quelques-uns qui finissent extrêmement haut sur le podium, il y en a beaucoup derrière qui vivent de ce métier, mais qui vont pas non plus être riches à millions. Donc ça peut, même quand on gagne sa vie avec, ça peut être quand même très compliqué. Ça demande beaucoup d'investissement toute la semaine, des week-ends en salon, c'est cool mais c'est crevant. Donc faut être conscient de ces difficultés qui vont derrière. Maintenant, c'est sûr, quand on a la passion, quels que soient les conseils qu'on vous dit, même si on vous dit de pas le faire, vous le ferez quand même. Donc si vous avez envie d'y aller, allez-y, quoi. Faut le faire de toute façon.
Merci beaucoup Jérôme et Géronimo, pardon, et Fabien.
Merci à vous, c'était super cool.
Tout pareil. Merci.